Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Salut, c'est Juliette Katz. Bienvenue dans le podcast, l'émission qui refuse de se taire. Chaque semaine, j'invite une personne pour discuter ensemble d'un sujet de société. Des conversations authentiques, sans filtre ni censure, sur des sujets parfois brûlants. Préparez-vous à être chamboulé, à rire et à peut-être penser différemment. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous embarquer dans ce voyage sonore où la liberté d'expression est la clé. Le podcast, c'est votre rendez-vous sans convention ni tabou. J'ai toujours une voix incroyable lors de ces intros et après ça part en couillasse. Aujourd'hui, on est sur un épisode solo où je n'ai pas d'invité, mais je suis, une fois n'est pas coutume, en live sur Twitch. Mon rédac-chef, qui s'appelle Julien, j'étais en train de parler avec lui, genre vraiment une heure avant d'enregistrer cet épisode, par hasard, on parle un petit peu des épisodes solo. Je dis « Ouais, mais d'ailleurs, je fais un live ce soir, mais je sais pas de quoi je pourrais parler. » Il dit « Mais ce serait trop cool que tu fasses une FAQ, donc une foire aux questions, une question-réponse, où tu réponds sans filtre, sans tabou, à tes abonnés. » Donc en fait, c'est ce qu'on va faire. Donc ce qui s'est passé, c'est que genre une heure avant de faire ce live et d'enregistrer cet épisode, j'ai posté un truc sur Instagram, genre vous avez des questions, et bah allons-y. Et en même temps, je suis sur Twitch, comme ça je suis avec mes petits abonnés que j'aime, et on y va. Donc j'allais regarder sur Instagram les questions qui me sont posées tout au long de cet épisode, et aussi sur Twitch, et puis on est parti. Alors encore une fois, je ne peux pas répondre à toutes vos questions, puisque vous êtes une petite quantité à me suivre et à me poser des questions. Je ne peux pas répondre à tout le monde, sinon vraiment cet épisode durerait à peu près, je pense, 9 heures. Ce qui est un chouïa long. On va rentrer dans le vif du sujet, hein, puisque je prends des questions un peu au hasard. Donc, il y a une première question qui est Yves, entre guillemets, parce que je vous le dis, hein, Yves n'est pas son prénom. C'est comme ça qu'il se fait appeler. Tu as pété, chérie ? Ah non, c'est la porte. Yves, a-t-il un travail comme le tien ou rien à voir ? Quels sont vos rapports avec vos jobs ?
Mon travail, je suis très premier degré. Je suis graphiste, web designer, motion designer. Voilà, en gros, tout ce qu'il y a sur votre petit écran, voilà, dès que ça bouge, dès qu'il y a des couleurs, voilà, ça vient de... c'est des gens comme moi, voilà. Je suis un peu timide. Non, donc voilà, moi, je suis graphiste, web designer, motion designer. Notre rapport avec nos jobs respectifs.
Et je pense qu'il y a, j'ai vu ça passer.
Ouais.
Peut-être on peut y répondre maintenant. Ton regard sur mon taf et est-ce qu'on a un lien dans notre métier ?
Alors, le lien qu'on a dans notre métier, c'est que au tout début, quand Juliette elle a commencé, je l'ai pas mal aidée sur ses contenus, à réfléchir avec elle, etc. Bah, de toute façon, toutes les blagues, hein, c'est moi. Dès que c'est drôle, c'est moi. Non, mais en gros, on coécrivait certains trucs ensemble au début. Ouais.
Mais tu te fais guider de ouf dans le chat. Aïe, 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 la voix de malade. Il fait nous des podcasts méditation. Est-ce que tu peux nous lire des histoires pour qu'on dorme ? La voix giga agréable.
Ouais, c'est gentil. Merci beaucoup.
Yves, c'est mon nouveau Pierre Belmar.
Boah, alors ça, c'est un vrai compliment. Bonsoir, les enfants.
Est-ce que Yves ne voudrait pas se lancer dans la SMR ? Tu sais, je pense que t'as raté ta carrière, chérie.
C'est vrai.
Mais tu devrais faire de la SMR.
Ouais, mais si je fais de la SMR, je deviens... du coup, créateur de contenu, ouais. Et du coup, on fait le même métier, et du coup, toi, ça te plaît pas.
C'est vrai.
Donc, je le fais pas pour toi.
Ouais, c'est vrai.
Preuve d'amour numéro 4592. Bref, donc, avec Juliette, ouais, au début, on écrivait quelques trucs ensemble. Avec le temps, C'est une professionnelle, hein, désormais. C'est une femme autonome, entourée d'une équipe de professionnels. Donc, moi, je participe plus trop à ses projets, sauf dernièrement pour sa charte graphique et non sa chatte graphique. Le coquin. Et du coup, ben, nos rapports, c'est juste que, comme moi, je bosse dans le digital et qu'elle, elle bosse dans le digital, mais dans deux domaines un peu différents, bah on s'échange des trucs, on se donne chacun des conseils, on donne notre avis, voilà. Mais je trouve que c'est assez sain, pour le coup. Et en tout cas, je n'ai pas à répondre à la question, mais en tout cas, je valide tout ce que fait Juliette, enfin, j'ai tout ce que Juliette peut dire sur les réseaux.
Donc voilà, je crois qu'on a répondu, enfin, Yves a répondu à la première question. Je vais continuer avec la deuxième. Est-ce que tu réenvisages la chirurgie bariatrique ? Eh bien, breaking news, absolument pas. Vraiment, c'est pas quelque chose que j'envisage, bien que je respecte hein, cette opération. Je respecte surtout, c'est pas tant que je respecte l'opération, je respecte les gens qui passent par cette opération, mais absolument pas parce que moi je pense, ça c'est mon regard, encore une fois, je ne parle que de moi, je pense que c'est pas une raison suffisante pour s'aimer. C'est-à-dire que perdre du poids, ok. Oui, alors c'est quoi une opération de chirurgie bariatrique ? C'est en général, c'est on te coupe un petit bout d'estomac, ou alors on te fait, c'est soit un bypass, soit une sleeve, enfin, c'est en tout cas pour perdre du poids, parce que en général, les personnes n'arrivent pas à perdre du poids seules, ou parce qu'ils ont des problèmes hormonaux, mais disons que toutes les personnes que j'ai pu rencontrer et qui se sont fait opérer, eh bien, certes, elles ont perdu du poids. Elles ont perdu du poids rapidement, mais le fond ne change pas. C'est-à-dire qu'elles elles sont minces, c'est globalement des femmes, on ne va pas se mytho, mais ces personnes se voient toujours grosses. Globalement, je fais vraiment une généralité, il y a toujours des exceptions, mais je crois qu'en fait, maigrir n'est pas la solution. Alors, c'est l'une des solutions, mais disons que ce n'est pas la solution. Pour moi, la solution, c'est le travail psychologique d'essayer de déconstruire, de comprendre comment ça se fait qu'on en arrive à prendre du poids, qu'est-ce qu'on vient trouver comme raisonnement, comme cachette, tout ça. Mais voilà, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, parce que parfois, souvent, les gens se sentent touchés, alors que vraiment, encore une fois, les gars, je ne parle que de WAM. Je suis pour cette opération quand il y a des vrais problèmes de santé intenses, d'obésité sévère et morbide, mais quand il y a du surpoids, je ne suis pas OK. Je ne suis pas OK, et puis me concernant, je n'ai pas envie. Je viens de lire ça. Juliette, ça t'arrive de regretter de te montrer vulnérable ? Ah, j'avais mal lu. J'avais lu. Juliette, est-ce que ça t'arrive de te montrer vulnérable ? J'avais envie de dire, quoi ? Moi ? Tu me poses la question à moi ? Est-ce que ça, je regrette ? Alors, je pourrais avoir de bonnes raisons de regretter. Beaucoup de gens me donnent des raisons d'avoir envie de regretter. Mais je ne regrette jamais parce qu'en fait, c'est ce que je suis, déjà. Donc, je ne peux pas changer ce que je suis intrinsèquement parce qu'en plus, je pense que de me montrer vulnérable et d'être vulnérable, donc d'être honnête, d'être transparente avec moi, c'est déjà un cadeau que je me fais. Et en plus de ça, je ne dis pas que c'est un bon choix. Et j'ai fait le choix de parler sur les réseaux sociaux de ce qui me traverse. Donc, ça a été pendant un moment le féminisme. J'étais très en colère. À un moment, j'ai parlé beaucoup du rapport au corps à me montrer nue parce que j'avais envie de parler de ça et j'étais dans ce chemin-là. Après, la parentalité. Et maintenant, j'aborde en effet plein de sujets qui sont dits intimes et tabous. En effet, de ouf, c'est clair. J'aborde plein de trucs très intimes. Mais en fait, moi, c'est complètement OK pour moi, pour deux choses. Déjà, parce que c'est mon métier. Donc, en fait, je ne dis pas tout sur les réseaux sociaux. Et qu'en plus de ça, je trouve que ça apporte un certain relief, en fait, à mon métier de créatrice de contenu. Je trouve un peu un sens à ça. En me disant, bah tiens, je me montre vulnérable et en plus, je trouve que ça aide et en plus, ça peut me faire du bien à des endroits, alors pourquoi pas, à partir du moment où ça ne blesse personne, bah moi je trouve ça cool. Et surtout, j'ai dit très souvent cette phrase de la pudeur, ça se place bien là où on a envie de la placer. Et disons que toutes les phases par lesquelles je passe de manière émotionnelle, où je suis en plein dedans, genre avec ma psy, ça je vous en parle pas qu'en fait je vous le cache, mais qu'en fait bah, je suis en train de la traverser, donc j'ai besoin d'en parler à ma psy, à mon cum ou à mes meilleurs potes. Voilà. Non, j'ai pu regretter une chose, c'est que si vous êtes là depuis longtemps, j'en ai parlé que sur ce modèle-là, j'ai sorti un livre il y a quelques temps, et j'ai parlé de quelque chose que j'ai vécu avec mon père. je dirais plutôt à cause de mon père. Et j'ai parlé du coup de sa sexualité, en vrai. C'est le seul endroit où j'en ai parlé, hein. Et ben, j'en ai pas parlé en amont. J'aurais, en effet, je trouve que ça aurait été bien de lui dire, papa, sache que je vais parler de ça. Parce qu'il me l'a dit, il m'a dit, j'ai lu ton bouquin, c'est ok que tu parles de ça parce que, bah, j'ai merdé. Il s'est rien passé, hein. Sachez-le, vraiment, il n'y a rien eu de cet ordre d'inceste, etc. C'est pas du tout ça. Enfin, d'une certaine manière, il y en a eu. Bref, franchement, lisez mon bouquin si vous avez envie de savoir. Mais disons que ce truc-là est réglé entre nous et tout va bien et on s'aime. Mais il m'a dit, franchement, j'aurais aimé que tu m'en parles avant de publier le livre. Et après, je lui ai dit, mais non, c'est mon histoire, c'est moi qui ai vécu ça. Et avec le recul, je pense que ça aurait été bien de lui dire, sache que je vais en parler. Voilà. Est-ce que tu as déjà eu envie d'une femme ? Tout à fait. J'ai eu envie de plus d'une femme, d'ailleurs. J'ai eu envie de plusieurs femmes. Et je crois que pendant un moment... Alors, je sais que les gens vont me dire « Ah, pas ouf de dire ça !» Mais après, c'est ce que j'ai vécu. Et j'essaye d'être honnête. Enfin, c'est pas j'essaye. Je veux être honnête et je ne veux pas avoir de tabou dans cet épisode-là. Je me suis cherchée pendant un moment, quand j'étais adolescente. J'ai été attirée vers des femmes. Mais vraiment, j'ai eu une attirance... physique et émotionnel vers des meufs. J'ai répondu à ça quand j'étais plus jeune. J'ai eu des relations, je pense à une nana qui habite aux États-Unis où moi j'ai fait de la musique avant et donc j'ai fait une partie de mon album aux États-Unis. Bien sûr, je me la pète. Et en fait, j'ai rencontré une nana là-bas, une chanteuse absolument incroyable, mais genre vraiment genre wow, quand je l'ai vue, j'étais genre what? C'est qui cette beauté? C'est qui cette bombasse? Et en fait, il s'avère que c'est une personne qui aimait les femmes. Et en fait, on a matché, tu vois. Et du coup, on s'est embrassés. Et en fait, elle me proposait qu'on aille chez elle. Et je crois que j'avais peur. J'avais peur parce que je l'avais jamais fait à cette époque avec une femme. Et vu que elle, bah, ça faisait partie de sa life, j'avais peur qu'elle me juge. Donc j'ai dit, ah, I have my period. Sorry. Et j'ai été hyper flattée que je lui plaise, tout ça. Voilà. Et puis sinon, j'ai embrassé. Et donc, on a eu une relation après un peu platonique, épistolaire, où on s'est beaucoup fait de Skype et tout ça. Et puis après, ça s'est arrêté parce que pour le coup, genre là, il fait un moment, genre, elle habite aux États-Unis, pas moi, je n'ai pas de raison de revenir aux États-Unis. À un moment, genre, fais ta life et je fais la mienne. Et puis sinon, on veut voir son nom pour voir sa tête sur Insta. Bah non. En plus, je vais te dire, je ne sais même plus comment elle s'appelle. Il me semble que c'est Lady Gaga, tout à fait. Et évidemment, pour le coup, j'ai déjà rencontré Lady Gaga, mais ça, c'était un autre sujet. Et puis sinon, à part ça, j'ai embrassé d'autres femmes. En vrai, que des artistes, que des chanteuses. Et puis la dernière fois que j'ai eu une expérience avec une nana, c'était avant mon mec, où j'ai fait un plan à trois avec un mec avec qui on était dans une relation de cul hein, depuis des années. Et puis ça arrivait comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Et puis voilà, on a tenté le bail et... Et je me suis dit, ok, bon, la nana me plaisait pas de ouf, donc après, c'était un peu complexe. Mais ça me faisait kiffer, en fait, de faire ça avec le mec avec qui j'avais l'habitude de coucher, quoi. Es-tu proche de Michel Jonas? Alors, est-ce que vous savez qui est Michel Jonas? Parce que je ne sais pas si vous savez qui est Michel Jonas. Michel Jonas est un chanteur qui a eu son heure de gloire. Mais alors, son heure de gloire, genre bien comme il faut. C'est lui qui avait fait « Joueur de blues, on est des joueurs de blues ». C'est lui qui avait fait ça, qui avait fait « Super nana, super nana, super nana ». Bref, c'est mon oncle. C'est le cousin de mon père, précisément. Alors, on me demande si je suis proche de lui. Peut-être parce que vu que j'ai fait de la musique, il y a beaucoup de gens qui me demandent si Michel a été un tremplin, a été là comme une aide. Ça va être très simple, pas du tout. Michel, on n'est pas proche. Voilà, univers, lui, tout à fait, bien sûr. Dites-moi, même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. En fait, je vais vous dire, moi, j'ai grandi dans la musique, puisque mon papa faisait de la musique, enfin, il faisait de la musique de pub, il était producteur de musique de pub, il a managé des artistes, il s'est occupé de Michel. Ils ont beaucoup, beaucoup travaillé ensemble. Mon père, vu qu'il a été dans la musique, j'ai grandi dans la musique. Donc, quand j'étais petite, j'allais dans les backstage de Taratata, j'allais sur les genoux de Zazie, Manu Katché, BFF de la famille. Enfin, vraiment, j'ai grandi dans cet univers-là. Et en fait, peut-être que j'ai eu envie de faire de la musique aussi parce que mon père m'a amené dans énormément de concerts, de grandir dans cet univers-là, ça m'a donné envie, certainement. Mais en fait, Michel, on a essayé pendant un moment de faire des choses ensemble, ça l'a pas fait. Mais c'est mon père qui a été à cette demande-là, mais c'est vrai que Michel ne s'est jamais vraiment intéressé à ce que je faisais comme musique, et je lui en veux pas, parce qu'en fait, on n'a jamais été genre proches. De toute façon, nous, on a un rapport dans la famille qui est un peu particulier, j'en sais rien, mais... Dans notre famille, on n'est pas spécialement proche des uns des autres. Donc, j'ai été très proche de la fille de Michel, par contre. Anna, qui est ma cousine, on a été extrêmement proches. Et encore une fois, la vie a fait que... Il y a quelqu'un qui a demandé dans le chat sur Twitch quelle est ta relation au judaïsme ? Tu penses à quelle transmission pour l'enfant, pour l'enfant ? Je vais être très honnête. Je vais être très, très honnête avec vous. Alors, moi, je suis juive. Je suis juive de ma mère et de mon père, et de toute ma famille. Toute ma famille est juive depuis des générations et des générations, du côté paternel et maternel. Donc, moi, je m'appelle Katz, K-A-T-Z. Je vous invite à regarder si ça vous intéresse, à savoir ce que ça veut dire. Du côté de ma mère, elle a dû raccourcir... Enfin, ses parents ont dû raccourcir le nom de famille parce que ça faisait, entre guillemets, trop juif pour l'époque. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai grandi, et ça, je trouve ça merveilleux, j'ai grandi dans une famille où le rapport à la religion est hyper propre à chacun. C'est-à-dire que mes parents ne m'ont jamais rien imposé. Jamais, jamais, jamais. Déjà, mes parents ne sont pas croyants ni pratiquants, mais... Moi, je suis juive ashkénaze, je suis polonaise hongroise, et j'ai eu beaucoup de familles qui a été déportée. J'ai envie de pleurer dès que je parle de ça. J'ai eu beaucoup de familles qui a été déportée. L'histoire de la Shoah, c'est quelque chose qui est... on a eu de la famille qui a été déportée, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a eu de la famille qui a pu s'échapper. Il y a la tante qui n'existe plus maintenant, mais que j'ai pu rencontrer il n'y a pas très longtemps. La tante de ma mère qui avait le tatouage, et en fait c'est un Américain qui est venu la sauver, ils se sont mariés. Mon grand-père paternel qui est décédé maintenant avait le passeport juif, on m'a partagé un peu toutes ces informations là. Et en fait voilà, j'ai grandi dans un truc avec mes parents où ils m'ont jamais dit tu vas faire Shabbat, tu vas apprendre, tu vas aller à la synagogue. Jamais, jamais. Ils m'ont plutôt transmis un truc de voilà ce qui s'est passé, voilà l'histoire, voilà d'où tu viens aussi, voilà l'histoire de tes grands-parents. Et donc, en fait, vers 10-11 ans, j'ai eu envie de m'intéresser en fait au judaïsme. Et donc, j'ai fait ce qu'on appelle les EI, c'est comme les scouts, mais pour les feuges. J'ai fait le Talmud Torah, qui est apprendre un peu l'hébreu. Et puis, je suis partie dans des colonies. Genre, j'ai fait le Kaej, qui est une colonie de vacances juives. J'ai fait ça. Et en fait, je me suis rendu compte très vite que je me sentais pas forcément bien dans cet univers-là. Et dans cet univers-là, quand je parle d'univers, hein, je parle, attention, je préfère le préciser, c'est pas les juifs en soi, c'est juste l'univers communautaire, l'univers de communauté, voilà, c'est ça, c'est plutôt ça. Un truc de communauté, je suis pas sûre que ça me parlait. En effet, quand on faisait les EI, je me sentais pas inclus dedans. Et donc, j'ai arrêté relativement vite. Mais donc, mon rapport au judaïsme, il est que je me sens juive. C'est très bizarre ce que je vais vous dire, hein, je pense qu'il y a beaucoup d'Ashkenaz qui comprennent ce que je vais dire. Je me sens juive, je me sens bien dans les synagogues, je me sens bien quand je mange de la nourriture ashkénaze. Il y a un truc de racine profonde. Et en même temps, je ne suis pas pratiquante, je ne suis pas croyante. Pendant un moment, quand on se parlait à l'époque avec mon demi-frère et ma belle-sœur, elle est juive, pratiquante, croyante et séfarade. Et donc, souvent, j'allais faire des shabbats parce que je passais du temps avec eux. Et en plus, j'aimais ça. Il y avait un truc qui me plaisait d'être dans ce truc familial dont on se retrouve autour de la table. Et moi, j'ai pas grandi là-dedans, de base, de manger ensemble avec mes parents. J'ai pas grandi là-dedans. Je crois que mon rapport au judaïsme, il est de cet ordre-là. Je suis partie à Auschwitz, je suis partie à Birkenau. Pour moi, c'est quelque chose de très personnel, quelle que soit la religion, c'est un truc qui est extrêmement personnel. Et là où j'ai envie de vous raconter un truc qui est un peu plus intime, c'est que vu que je suis juive, mon fils l'est. Et en fait, quand j'étais enceinte, j'en parlais avec Yves et je lui disais « Bon, super, quand notre fils va arriver, on va pouvoir le circoncire. » Et mon mec, attention, je sais que tout ça peut faire un peu débat, hein, mais là je vous parle de moi et très honnêtement, je n'ai pas besoin d'avis là-dessus, hein, parce qu'on notre choix est très 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 clair. Quand j'ai dit donc à mon mec, on va faire une circoncision, mon mec m'a dit mais pourquoi ? Je lui dis parce que on va transmettre en fait, je veux transmettre ça à mon fils. Il me dit mais tu peux le transmettre d'une autre manière. Il me dit moi je suis pas ok que tu enlèves un bout de son corps. Parce que tu es juive, et surtout, en plus de ça, tu n'es ni croyante ni pratiquante. Donc en fait, désolé, mais non, il y a le consentement, et il est hors de question. Et quand il m'a dit ça, j'ai fait « Ah, c'est vrai, t'as raison !» Mais en même temps, je voulais pas du tout. Je lui avais dit « Mais non, c'est hors de question, notre fils sera circoncis, c'est comme ça. » Et en fait, à force d'en parler, il m'a dit « Mais non, si un jour notre fils a envie de se circoncire, mais il le fera, parce que ce sera son choix. » Et en fait, du coup, on ne l'a pas fait. Et je suis, mais alors, tellement contente. Je pense que c'est un... Je trouve que c'est une entrave à la liberté que de faire ça, que de percer les oreilles de son enfant. Je crois que c'est pas OK pour moi, de mon point de vue. Et c'est pour ça que, au-delà de la religion, il y a un truc où c'est... percer les oreilles d'une petite fille, non. Vraiment, pour moi, c'est pas OK. Circoncire un... Et pourtant, j'ai vu ce que c'était une circoncision. Je l'ai vu, je tenais le bébé pratiquement. Ça m'émeut parce que il s'agit du consentement et je n'ai pas envie de toucher au corps de mon fils. Voilà. Je n'ai pas envie de toucher à ça, ça lui appartient. Et c'est pas parce que sous couvert de religion et de tradition, j'ai pas envie. J'ai pas envie, et si par contre il a envie de le faire, il fera bien ce qu'il veut, quoi. Voilà, donc encore une fois, chacun fait bien ce qu'il veut avec son enfant, mais nous c'est comme ça. Donc voilà où j'en suis dans ma relation au judaïsme. Comme vous l'entendez peut-être, c'est quelque chose qui me touche, parce que je pense que je suis touchée de ce qui s'est passé, de la Shoah, etc. Ça me touche, et puis d'autant plus que j'ai été là-bas, j'ai vu, et d'autant plus que j'ai vu des gens de ma famille qui ont vécu des choses très difficiles. Donc, moi, l'antisémitisme, le racisme, l'homophobie, tout ça, moi, je suis choquée. Quand je suis choquée dans la vie, en règle générale, je suis comme ça. C'est-à-dire en état de choc et je ne réagis pas. Parce que je suis genre, quoi ? Hein ? Quoi ? Et voilà. Donc... moi, ça me parvient pas, en fait. Ça me parvient pas du tout qu'on puisse aller critiquer l'autre parce que il est juif, il est noir, il est gay. On parle de des choses complètement différentes, hein, ok. Mais ça me parvient pas. Ça me parvient pas qu'on ne puisse pas aimer, qu'on puisse détester, plutôt. Ça ne me parvient pas qu'on puisse détester des gens parce qu'ils sont différents de nous. Et que du coup, on va leur faire du mal. Voilà. Je suis désolée hein, de vous dire ça comme ça parce que je sais qu'il y aura des gens qui vont penser différemment. Et la religion, moi je ne suis ni pour ni contre les religions, pour aller plus loin dans l'explication. Les religions, quelles que soient les religions, chacun fait bien ce qu'il veut. Mais pour moi, c'est quelque chose de très personnel, la religion. C'est pour ça que même de transmettre la religion à son enfant, c'est un petit dos pour moi. C'est un petit dos. Mais encore une fois, si demain je suis vraiment croyante et Dieu fait partie de ma vie de manière intégrante, en vrai, peut-être que j'en parlerai à mon enfant et que je l'élèverai là-dedans parce que ça fait partie de ma vie. Mais là, je vous en parle avec beaucoup de recul, puisque c'est pas comme ça que je vis. Pour moi, la religion, c'est quelque chose de personnel. Donc, si tu as besoin d'aller prier 6 fois par jour, eh bien, fais-le. Enfin, je veux dire, ça ne me concerne pas, quoi. Donc voilà, on va passer à une autre question parce que j'ai mis beaucoup de temps à répondre à ça. Un sujet un petit peu plus léger, hein, parce que j'ai l'impression de pleurer à chaque réponse. Alors il y a une question qui revient très souvent, mais alors très souvent. Et en fait, je vous réponds pas trop parce que... Mais bon, j'ai décidé d'être très honnête sur cet épisode-là, donc je vais le faire. En prenant des pincettes et en essayant de blesser personne. Mais il y a quelque chose qui revient à chaque fois. Genre, en fait, à chaque live, que ce soit sur Insta, sur Twitch, sur TikTok, c'est « Vous parlez plus avec Gaëlle Garcia Diaz ?» Et en fait, à chaque fois, je dis « Bah, en fait, c'est la vie qui a fait que. » On se parle plus parce que souvent, en vrai, c'est comme ça que les choses se passent. Tu sais, souvent, quand on n'est pas BFF avec quelqu'un, quand on n'est pas genre meilleur pote, bah souvent, la vie fait que on se parle plus trop et basta. Avec Gaëlle, pour être très honnête, j'ai pas du tout envie d'aller casser du sucre ou tout ça. Je crois qu'en fait, moi, j'avais beaucoup d'attentes, pour être très honnête. Je crois que j'avais projeté des choses dans notre relation amicale. Voilà, j'ai été... elle m'a amené dans son intimité quelque part, dans des dîners de famille. On a dormi ensemble, etc. Et en fait... on a dormi ensemble. Attendez, n'y voyez pas un truc sexuel, mais genre juste, on a vécu un truc proche, quoi. Et puis, on a fait des vidéos. Et il s'est passé quelque chose, je trouve, de mon point de vue, un truc de... une connexion. Et en fait, je pense que j'ai été vachement plus dans le désir d'être avec elle, de la côtoyer, de faire des choses avec elle. Pas parce que c'était une meuf qui pesait dans le game, mais parce qu'en fait, j'aimais bien ce qui se passait entre nous et j'aimais bien ce rapport qu'on pouvait montrer à l'écran de meuf qui m'aime pas. Moi, j'aimais bien ce rôle. Je trouvais ça rigolo, en fait, d'être dans un rôle. Et je trouvais que ça matchait bien. Et en plus que ça plaisait. Donc, en plus de ça, c'était cool. Et je pense que j'ai été peut-être l'unique personne entre nous à me projeter beaucoup et à avoir vraiment des envies de construire un truc d'une chaîne ensemble parce qu'on avait... un peu cette envie-là pendant un moment. Je pense que Gaëlle est tout l'opposé de moi. Et attention, ce n'est pas une critique. Je l'ai vécu comme quelque chose de négatif, mais en fait, je pense que c'est juste... on a deux traits de personnalité, deux caractères différents. Gaëlle est quelqu'un de très, très, très ambitieuse, qui est une bosseuse de ouf, qui est une business girl de ouf, mais vraiment. Hein. Et en fait, moi, je ne suis pas ça. J'ai jamais été ça. Mais genre, même avant, hein, avant que je fasse ce métier, je n'ai jamais été... une meuf ambitieuse qui a envie de tout défoncer, quoi qu'il, de me lever hyper tôt, de me coucher hyper tard. Jamais été comme ça. Et Gaëlle, je sens que c'est quelqu'un qui est dans ce désir de tout défoncer, et à juste titre, parce qu'en fait, elle le fait extrêmement bien. Vraiment, genre, à chaque fois que je vois des trucs, je me dis, putain, incroyable. Donc moi, je suis très admirative d'elle, de même Léna, situation, alors qu'on ne se connaît pas. Mais même Swan Périssé, que j'adore, je suis admirative devant les gens, et notamment devant les femmes, qui font des trucs de ouf. Et qui sont dans un truc de dépassement où moi, je n'y suis pas. Je fais d'autres choses. Je le fais autrement. Moi, c'est plus doux, c'est plus tranquille. Et donc, pour revenir dans cette histoire avec Gaëlle, je pense que elle a pris du plaisir comme j'ai pris du plaisir. Et en fait, voilà, je pense qu'elle est passée à autre chose, tu vois. Elle a eu ce truc, mais ça c'est mon interprétation parce que je sais pas trop. Et moi ça m'a blessée. En effet, pendant un temps je me suis dit merde, putain, en fait on était que à faire des vidéos, merde. Moi je pensais qu'il y avait plus ça, merde. Peut-être c'est de ma faute. Peut-être je me suis trop impliquée dans la relation parce que je m'impliquais énormément dans les relations. Sachez-le, je m'implique toujours énormément. Et en fait à un moment je me suis dit mais je vais pas courir après une relation. Je parle même pas de faire des choses ensemble, mais juste viens, on passe du temps ensemble, on s'est dit des choses privées, intimes, et en fait, voilà, j'ai senti qu'elle n'était pas à cette place-là, je n'en ai pas parlé avec elle parce que je n'ai pas eu l'occasion, alors c'est très douloureux quand tu t'en rends compte, je lis un peu le chat en même temps sur Twitch, très douloureux, je n'irai pas jusque-là, parce que en fait, moi j'ai mes amis, et Gaëlle, c'était une personne que j'étais en train de découvrir, donc il y a eu une petite claquette. Une petite claquette sur la joue, mais une petite, tu vois. Une petite dans le sens où c'est pas genre, oh putain, c'est un coup de poing dans le cœur. Pas dans ce sens-là, c'est juste, ok, on n'a pas la même vision des choses. Et donc forcément, quelque part, tu dis, ok, bon. En vrai, comme je vous dis, il ne s'est rien passé. Mais c'est pas grave, genre, il n'y a pas un truc où je dis, putain, c'est vraiment une connaissance. Jamais j'ai ces pensées-là. Je suis juste un peu genre, ok, bon, alors qu'est-ce que j'ai pu faire moi pour merder? Parce que très souvent, moi, je me remets en question sur tout, tout le temps. Voilà, tu vois, je crois qu'on a, on n'aspire pas aux mêmes choses. Donc à un moment, voilà, je pense avoir bien répondu à la question parce qu'on n'arrête pas de me la poser. Et surtout qu'en plus, je crois que ça va vraiment au-delà de cette personne. C'est juste que je n'ai plus envie de courir après les gens. Je crois que c'est vraiment quelque chose... Et ça me donne envie de pleurer, mais pas du tout par rapport à ça, parce que je pense à plein d'autres personnes dans mon enfance, dans des trucs comme ça, où j'ai tellement couru après, tellement été dans un truc de désir qu'on m'aime, parce que j'ai un peu un syndrome d'infériorité, et que j'ai tellement été dans un truc de « Ah, c'est pas comme... Tu m'aimes pas comme... Enfin, tu voudrais que je sois différente ? Ok, vas-y, je vais le devenir. » J'avais un peu ce truc-là étant enfant, parce que j'avais peur de qu'on m'abandonne sans arrêt, donc je préférais très souvent être mal accompagnée que seule. Dans la vie, avec les mecs, avec les relations amicales et tout, parfois même professionnelles. Et en fait, maintenant, plus le temps passe, plus je découvre de l'estime. Et puis, en effet, comme quelqu'un le dit dans le chat, à un moment, ras le cul, dans le sens où, en fait, je vois que ça ne sert à rien, parce que ce n'est pas possible, en fait. Ce n'est pas possible d'être dans une relation à sens unique. Et en fait, maintenant, je suis dans un truc à me... où j'ai plus envie. Je n'ai plus envie d'être derrière les gens. Et surtout, je me dis, en vrai, chacun pense ce qu'il veut. Et si elle, pas elle, enfin, tu vois, quand je vous dis que c'est pas le sujet, c'est que Gaëlle n'est pas le sujet, si les gens pensent, ils ont envie, ils pensent ce qu'ils veulent. Mais moi, j'ai plus envie de courir après. C'est même pas une histoire de je vaux mieux que ça. C'est même pas ça le sujet, hein. C'est même pas ça. Est-ce que tu te considères comme étant narcissique ? Tout à fait. Tout à fait. Prochaine question. Vraiment, je peux pas vous dire autre chose que tout à fait. Je suis complètement narcissique et j'en ai complètement conscience. Mais alors, complètement conscience, si je fais ce métier depuis tant d'années qui est de me montrer aux gens, que ce soit de la création de contenu ou quand je suis comédienne ou chanteuse, c'est parce que j'ai besoin qu'on vienne me dire « T'inquiète ». Tu gères, meuf, t'inquiète, tu déchires, t'es belle et on t'aime. J'ai besoin qu'on vienne me dire ça sans arrêt, même si quand vous me le dites, j'ai envie de vous dire arrêtez, c'est pas ça que je recherche. Mais évidemment, j'ai un narcissisme présent et je vais vous dire, je pense que tout le monde l'est, hein, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de gens sont narcissiques et quelque part, tant mieux, mais il y en a qui le sont un peu plus que d'autres. Moi, je pense que je suis hyper narcissique, mais pas du tout dans le sens je me trouve trop belle et je peux m'embrasser. Je m'adore pas du tout. Je suis narcissique dans le sens où j'ai besoin quelque part que on vienne me dire ça va meuf, tu te déchires. Voilà, parce que moi j'ai parfois du mal à le croire, donc quelque part ça vient me faire du bien. Que penses-tu des femmes grosses qui défendent le body positive et qui ont recours à la chirurgie bariatrique ? Moi, je crois qu'en fait, tant qu'il y a de la souffrance, il faut y aller. Genre, il faut aller travailler sur soi. En revanche, ce qui est de l'ordre du body positive, je vous avoue que moi, c'est un truc qui me parle pas. C'est marrant parce que je suis d'ailleurs tombée sur une vidéo en lien avec mon narcissisme. J'ai tapé Juliette Katz sur TikTok. Bien sûr, hein, on va au narcissisme jusqu'au bout. Et en fait, j'ai vu quelqu'un qui disait « Ouais, Juliette Katz, elle qui prône le body positive. » J'ai envie de dire « Quoi, meuf ?» Hein ? Ah bon ? Putain, j'étais pas au courant, frère. Donc déjà, voilà, moi je suis vraiment pas du tout dans ce... Je réponds pas du tout à ce truc-là. Je crois que les personnes qui se sentent mal... En fait, tu sais, souvent, on a envie de croire qu'on se sent bien, grosse ou pas grosse, ok ? Parfois, on vient se rassurer en disant que ça va à des endroits, et en fait, ça va pas. Et donc... Là, pour le coup, le sujet, c'est être grosse. Et du coup, est-ce que je défends le body positive et finalement, j'ai recours à la chirurgie bariatrique ? Déjà, on ne connaît pas l'histoire des gens. Ça, c'est important de, quand même de le préciser. On ne connaît pas l'histoire des gens. Les réseaux sociaux, c'est un endroit où on montre bien ce qu'on a envie de montrer. Ça, c'est quand même important de le dire aussi. Et puis, en fait, peut-être que juste aller dans un désamour d'elle énorme. Donc, évidemment, la première réaction, ça va être de dire « Bah meuf, non, enfin, toi qui prônes ça et là tu réponds à ça, ah vas-y, abusé. » Évidemment que tout le monde pense ça de prime abord. Et après, tu peux potentiellement aussi te dire « Bon, en fait, peut-être que c'est une personne qui est malheureuse, qui a essayé 12 milliards de régimes ou de méthodes, plus que de régimes d'ailleurs, pour perdre du poids et ça fonctionne pas. » Bah vas-y, elle répond à cette demande-là. Après, moi, vous savez ce que je pense des opérations bariatriques. Donc, encore une fois, chacun fait bien ce qu'il veut. Un jour, un podcast avec un public, ce sera envisageable ? Eh bien, tout à fait. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes en train de préparer ça et que nous aimerions, j'aimerais, amener le podcast en live et pas une fois, plusieurs fois. Et voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Donc, on est dessus. Mais c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Putain, vraiment, la vieille ref. Quelqu'un qui a écrit juste la sodomie, point d'interrogation. Bah, je sais pas quoi te dire, genre, est-ce que tu me demandes si je pratique la sodomie ? Vraiment, c'est assez intrusif comme question. Pas tant. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Je ne sais pas. Ça fait quoi d'avoir une maman psy ? Ça fait ça. Voilà ce que ça fait d'avoir une maman psy. Une maman psy, écoutez, c'est pas évident, hein, on n'est pas sur un projet. On n'est pas sur un projet évident, hein, vraiment. On croit que c'est sympa parce qu'on se dit, ah putain, on va pouvoir analyser plein de trucs. Moi, bah, du coup, oui, vraiment, genre, elle a analysé beaucoup de choses, ma mère, hein, vraiment. Mais moi, je n'étais pas dans l'analyse. Hein, j'avais pas très envie qu'on m'analyse. Donc, elle est psy quoi ? Elle était psychothérapeute, voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai grandi dans une famille qui adorait analyser. Mon père aimait ça, même qu'il est pas psy, hein, mais bah, il est avec ma meuf, waouh, pas du tout le lapsus, avec ma mère depuis plus de 40 ans, donc bah, il la côtoie très bien. Et en fait, bah, j'ai grandi dans ce truc d'analyse constant, donc il y a des côtés positifs, j'en trouve assez peu. Je crois que les côtés positifs, c'est que du coup, on a libéré la parole relativement vite. Je peux parler de plein de choses avec mes parents et ça, c'est assez cool. Mais ouais, en vrai, ça a été très compliqué pour moi parce que ma mère est encore maintenant, mais maintenant, je l'ai accepté parce que je travaille sur moi. Je crois qu'en fait, j'ai vu beaucoup de psy parce que ma mère était psy. J'ai vu beaucoup de psy parce qu'elle a eu le désir que j'en vois. Et puis à un moment, j'ai compris que ça ne marchait pas parce que c'était elle qui avait ce désir-là et pas moi. Et puis un jour, j'ai compris que j'avais besoin d'en voir. Et maintenant, j'en ai vu pas mal de mon propre désir. Et maintenant, ça fait... 3 ans que je suis en analyse avec ma psy, où je suis maintenant allongée. Je suis trop contente, je suis allongée, elle est derrière. Ça, c'est quand je viens à Paris, mais sinon, on est au téléphone. Mais voilà, donc je dirais que d'avoir une maman psy, c'est pas forcément un truc positif, je trouve. Après, c'est life, en fait. Hein. Je dis pas que j'aurais aimé qu'elle fasse autre chose. J'en suis pas là du tout. Mais c'est vrai que... Et en plus, elle a un peu ce truc de la sachante, ma mère. Ma mère, et même encore maintenant, je sais que si elle va écouter, elle va dire « Oh, elle abuse, elle dit n'importe quoi. » Je dis « Oh, mais c'est pas possible. » Mais en vrai, c'est vrai. Ma mère, elle a le truc de la sachante de « Je sais que j'ai raison. Et les autres ont tort. Je le sais. Je le sais. » Je dis « Ok, maman. D'accord. Si tu veux. Non, je le sais. » Tu penses quoi de ces influenceuses qui se servent de leurs enfants pour la fame ? J'en ai déjà parlé, globalement. Hein. Je vous ai déjà dit ce que je pensais de ça. Je peux en reparler rapidement. Je suis très contre, évidemment. Je ne comprends pas les gens qui sont pour d'exposer leurs enfants et se faire de l'argent sur leur dos. Petite chanson que j'ai inventée. Que je déposais à la SACEM. Non, mais vraiment, je suis très, très contre. Hein. Je comprends l'envie, évidemment que je comprends l'envie d'exposer son enfant pour qu'on nous dise... Parce que moi, évidemment que j'ai envie d'exposer mon enfant parfois parce que j'ai envie de vous dire « Regardez comme il est beau, putain ! Regardez, j'ai besoin que vous validiez ce truc tellement il est magnifique !» J'ai envie ce truc-là. Parce que nos enfants, on trouve que c'est les plus beaux du monde. Vraiment, évidemment. En revanche, je crois qu'il faut faire attention quand on est sur les réseaux sociaux à l'impact qu'on peut avoir. Et surtout, moi qui ai décidé de tout dire, ça ne concerne que moi. Quand Yves prend la parole et qu'on parle de sexualité, ou même quand je parle de sexualité, de notre sexualité avec Yves, Yves est à côté, ok ? Voilà, il y a des choses, en effet, je parle de choses que j'ai vécues avec mes parents. Alors, ils ne sont pas forcément là, mais c'est ce que j'ai vécu moi. Voilà, je pense que quand on a une certaine forme de popularité, quel que soit le niveau, ok, on se doute déjà qu'il y a de la pédopornographie, qu'il y a des gens qui peuvent se lébrant, ok, sur nos enfants. Et à partir de ce moment-là, pouf! Bof, je suis pas ok. Quand on sait que bah quand on expose nos enfants, ça fait plus de likes. Bah du coup, ça devient un enfant objet et non sujet. Donc ça me gêne. Mais encore une fois, je peux comprendre l'envie qu'on nous dise que notre enfant est beau. Ça, je peux le comprendre. Ou que notre enfant est drôle, ou qu'il fait des trucs marrants. En vrai, je peux comprendre ça. Mais par contre, que ce soit basé, que notre création soit basée sur ça, bah moi, c'est un no-go pour moi, hein, vraiment. Et pourtant, il y a des créateurs, des influenceurs, machin, que j'adore et qui exposent leurs enfants, où moi, à chaque fois, je suis genre, mais pourquoi, frère? Pourquoi? Et pour être très honnête, j'aimerais faire un épisode un jour sur le podcast pour parler de ça, mais je pense que c'est trop compliqué pour moi, parce qu'en fait, je suis trop dans le jugement. J'arrive pas à avoir de la distance avec ça. Parce que quand j'en parle avec des gens, j'en ai parlé hein, il n'y a pas très longtemps avec une personne qui était prête à venir. Mais en fait, j'arrive pas parce que je trouve une raison et une réponse à tout. Voilà. Donc, et pourtant, je vais vous dire, je ne suis pas jolie. J'aime trop ce qu'elle fait. Vraiment, j'aime trop ce qu'elle fait. J'aime beaucoup son mec. J'aime. Mais je ne suis pas OK. Mais après, ils font ce qu'ils veulent. Ça les regarde. Je ne suis pas concernée par ça. Mais là où je suis concernée, c'est que j'ai un enfant. Je ne serai jamais d'accord, tout à fait. Roxane, une meuf que je trouve tellement mienne, on ne se connaît pas, hein, mais je sais qu'on s'entendrait très 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 bien. Elle a arrêté de montrer son dernier, d'ailleurs. Et je crois que Roxane, elle a décidé de montrer ses enfants quand eux étaient OK avec ça. Oui, OK. Sauf que pour moi, ils sont trop jeunes. Enfin, peut-être son plus grand, là, il est en âge, mais moi, je trouve ça trop jeune. Et puis voilà, McFly et Carlito, ils le font peu. Mais je suis pas OK. Et surtout qu'en plus, quand il s'agit de gens avec une grosse notoriété comme eux, on doit les protéger, on doit protéger un peu nos enfants des réseaux sociaux, du narcissisme. Mais regardez, j'en suis la preuve. Non, mais en vrai, je suis pas OK. C'est quoi ta boisson alcoolisée préférée? Eh bien, je ne bois pas. Voilà, je ne bois pas. J'ai bu quand j'étais plus jeune. Pourquoi? Parce que j'avais envie d'être désinhibée et donc de plaire et donc qu'on m'aime. Donc c'est un moyen pour moi d'aller vers les autres et de dire hey, tu veux bien coucher avec moi? Oh, je me fais de la peine, pipou. Et maintenant, en fait, vu que je n'ai plus ce besoin-là absolument, du coup, j'ai arrêté de boire parce qu'en fait, je n'aime pas le goût. Pour être très honnête, je ne suis pas fan du goût de l'alcool. J'ai jamais eu de plaisir à boire de l'alcool, vraiment. En plus, moi, j'étais vraiment ce genre de meuf qui allait prendre des vodka, Red Bull, non, des coca, c'était quoi vodka coca, ou genre Red Bull vodka, enfin c'était des trucs de merde quoi. Donc c'était, tu sais, j'étais bourrée rapidement, donc j'en buvais pas mal. Je suis beaucoup sortie, beaucoup plus jeune, et maintenant je pourrais boire un petit verre de temps en temps, mais genre un tout petit verre, un fond de vin, tu vois. Comment tu gagnes financièrement ta vie maintenant? Principalement grâce à Pornhub, hein, vraiment Pornhub et OnlyFans aussi. Vraiment, c'est vraiment les deux plateformes qui me rémunèrent plutôt bien. Je vais pas vous mentir. Et pour être honnête, je gagne ma vie pour l'instant. Je gagne ma vie pour l'instant grâce à l'influence, grâce à la création de contenu, grâce au partenariat. C'est comme ça que je gagne ma vie. Ça fait 8 ans. Ça va faire 8 ans que je fais ce métier-là. Ça fait pas 8 ans. Que je gagne ma vie, ça va faire, je dirais, 4-5 ans que je gagne bien ma vie avec ça. Et je suis très contente. Je suis très contente parce que je crois que pour les gens qui me suivent vraiment et qui sont vraiment des adeptes hein, de Instagram et de YouTube, voient que en fait, je ne fais que des partenariats avec des marques que j'apprécie vraiment et ou que j'utilise vraiment et ou que je trouve qui ont un vrai sens. Donc je refuse beaucoup de choses, beaucoup. Et voilà, je gagne ma vie grâce à ça. Je pourrais, je pense, gagner ma vie autrement, dans le sens où je pourrais gagner ma vie grâce uniquement à YouTube si je faisais que du YouTube et pas de partenariat. Mais je pense que je gagnerais pas énormément ma vie. Je pourrais gagner ma vie grâce à TikTok si j'étais à fond sur TikTok, mais c'est pas le cas. Et je pense que je pourrais gagner ma vie grâce à Twitch si je m'investissais à fond, mais c'est pas le cas. Et donc j'aime bien en fait que les partenariats avec les marques, et même mon podcast d'ailleurs, le podcast jusqu'à maintenant je me rembourse à peine, mais je vais commencer à pouvoir me payer, et ça je suis très heureuse, parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois, le podcast me coûte beaucoup de sous. C'est la première fois, je le dis parce que en fait je suis hyper fière de pouvoir sortir autant d'argent, franchement je suis trop fière, parce que j'ai vraiment longtemps été au RSA, mais alors vraiment longtemps. Donc maintenant de me dire que l'argent n'est plus un problème pour moi, je suis hyper contente. Les gens qui me disent « Ouais, mais tu te vois comment dans 10 ans ? Parce que peut-être qu'un jour, l'influence, ça va s'arrêter. » Moi, très souvent, je dis « Bah ouais, mais comme tout métier peut s'arrêter. » Et moi, j'ai choisi, en effet, de faire un métier qui n'est pas dans une norme, dans une standardisation des choses. Mais avant, j'étais mannequin. Avant, j'ai été chanteuse. Avant, j'ai été prof de chant. Enfin, tu vois, donc je n'ai jamais eu un métier dit standard. Et je crois que si demain, la création de contenu s'arrête, bah, je ferai autre chose et je vais inventer autre chose. Mais c'est vrai que j'ai un peu envie de surfer sur, de battre le fer tant qu'il est chaud, parce que je ne sais pas quand tout ça peut s'arrêter. Et cette année, par exemple, je vous le dis, il y aura plus de partenariats que l'année dernière. Pourquoi? Parce que l'année dernière, bah, je me suis laissé un peu vivre et à la fin, je me suis dit, ah, j'aurais peut-être dû en faire un tout petit peu plus. Et donc, cette année, il y aura un petit peu plus de partenariats, mais vraiment des trucs cool, quoi. Vraiment des projets chambés qui me plaisent. Donc, voilà comment je gagne ma vie financièrement maintenant pour répondre à cette question. Alors, as-tu fumé pendant ta grossesse? Tout à fait. La meuf, il n'y a pas plus frontal que WAM. Il n'y a pas plus frontal que moi. Mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins fumé. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, quand je suis tombée enceinte, j'étais persuadée que j'allais dégoûter de la cigarette. J'étais persuadée que j'allais me dire « Non, mais de toute façon, ça y est, c'est bon. » Et en fait, bah, je n'ai pas été dégoûtée. Et ça m'a posé problème, parce que j'ai vraiment beaucoup compté dessus. Bah, moi qui fumais 25 cigarettes par jour, okay, je suis passée de 25 à 5. En fait, j'en ai parlé avec mon gynéco, et je me suis rendu compte très rapidement que c'était très compliqué pour moi d'arrêter. J'ai réduit assez facilement, et puis après, ça a été un peu compliqué. En dessous de 10, pour être très honnête, pour moi, c'était compliqué, mais j'ai réussi. Et à un moment, j'en parlais avec mon gynéco et avec d'autres personnes, et les médecins me disaient, écoutez, c'est mieux que vous fumiez quelques cigarettes plutôt que vous soyez dans un état de stress comme as tout le temps. Donc, essayez de fumer le moins possible, et puis voilà, donc c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai pas fumé beaucoup et je vais pas vous dire que je regrette pas ou que je regrette, enfin, j'ai pas du tout envie de donner de conseils là-dessus. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que moi, ma grossesse, je l'ai adorée avec le recul parce que sur le moment, j'arrêtais pas de dire j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Je trouve que c'est merveilleux d'être enceinte, je trouve ça merveilleux. Mais pendant ma grossesse, j'ai eu du diabète gestationnel, j'ai dû me piquer tous les jours pour avec l'insuline. Et donc déjà, j'étais dans une petite prison, tu vois, ça m'a vraiment fait chier. Et plus la cigarette, en fait, à l'époque, pour moi, la cigarette, c'était une porte de sortie. J'avais besoin de cette liberté-là. En vrai, j'ai eu besoin de ça, mais je m'en suis voulu dans le sens où j'avais peur. Évidemment, j'avais peur que ça lui fasse quelque chose de pas bon. Et après, bah, j'ai continué quand j'ai allaité et j'ai repris de plus belle. Donc, je suis passée de 5, 6, 7 à bien plus. Mais j'ai passé vraiment, 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 vraiment les tétés. Puis déjà qu'en plus, le lait, c'était très compliqué. L'allaitement était très compliqué. Du coup, c'était encore plus une excuse pour fumer parce que bah, j'avais très peu de lait. Voilà. Quel est ton rapport avec ta famille, toi qui dis qu'il est particulier? Comment vois-tu, dans un idéal, ta relation familiale future avec ton fils? Ah, c'est une bonne question. Mon rapport avec ma famille, il est complexe dans le sens où... Enfin, je veux dire, qui n'a pas une relation complexe avec sa famille, hein? Je crois que toutes les familles, toutes les personnes que je connais, ils ont tous un rapport un peu fucked up, hein. Il y en a très peu où ça se passe bien. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai grandi avec mes parents et un demi-frère, qui est le fils de ma mère, qui a 15 ans de plus que moi. Et j'ai grandi dans une famille où on parle beaucoup, mais où il y a peu de moments de famille, vous voyez, de on est à table, on est ensemble, il y a du commun, il y a eu peu de choses comme ça. Et puis en plus de ça, notre famille, elle est un peu éparpillée partout. J'ai aussi grandi avec une maman avec qui son fils, c'était compliqué, donc avec mon frère, avec sa sœur, donc avec ma tante, c'était compliqué. Donc j'ai grandi là-dedans, dans des trucs compliqué. Et puis, en fait, voilà, moi, maintenant, je ne parle plus à mon demi-frère, ni à ma belle-sœur. C'est un choix qui m'appartient et qui me rend triste. Parfois, j'y pense beaucoup. Et parfois, voilà, je me dis que c'est quand même vraiment dommage d'avoir pris ce choix-là, que j'ai pris seul, hein, d'ailleurs. Mais ça me fait chier, quoi. Ça me fait chier. Mais bon, c'est comme ça. Et en fait, maintenant, dans ma famille que j'ai construite, donc c'est-à-dire mon mec et mon fils, je n'ai pas du tout envie de reproduire ce schéma familial. J'ai grandi avec des parents qui ne me considéraient pas dans le sens où ils ne m'entendaient pas. C'est mes parents savaient mieux que moi, parce que ma mère était une sachante. Je sais que si elle va écouter cet épisode, elle va dire qu'elle n'était pas d'accord, mais c'est comme ça que je relate les choses maintenant. Et maintenant, c'est OK pour moi, parce qu'il y a des choses que j'ai travaillées. Mais en fait, j'ai très envie d'écouter les émotions de mon fils. Voilà, c'est très important pour moi. Et pour nous, avec mon mec, d'écouter et de nommer ses émotions. Genre, quand il est saoulé d'un truc, quand il est en colère, souvent, je dis, franchement, je comprends. Je comprends, t'as envie de faire ça, t'es frustré, je comprends. Mais par contre, on peut pas taper, tatati, tatata. Et puis, j'ai envie qu'on lui apprenne vraiment beaucoup de choses, parce que je crois que à la génération de mes parents, peut-être de nos parents d'ailleurs, ceux qui écoutent cet épisode et ceux qui sont là sur ce live, mes parents qui ont 75 ans, n'avaient pas du tout les mêmes réflexions qu'on a actuellement sur l'éducation. Je ne dis pas que c'était mieux ou moins bien, c'était juste c'était différent. Je pense que c'était un peu moins bien, on ne va pas se mytho. Mais en tout cas, ouais, j'ai envie de faire des choses où ils se sentent entendus, quoi. Voilà. Prévois-tu une rencontre avec tes followers? Ça pourrait être sympa de se rencontrer. J'aimerais beaucoup, mais tu sais, avant, il y avait ce qu'on appelait les meet-up, ce qu'on fait plus trop maintenant, ce qui, je crois que c'est devenu interdit, il me semble. Mais j'aimerais beaucoup faire ça, justement, je pense qu'avec le podcast, c'est ce qui va se passer petit à petit. On en reparlera. Est-ce qu'on fait toujours l'amour après des années de vie commune et un gosse? Adèle, j'ai fait un épisode, justement, si ça t'intéresse, sur un épisode solo qui s'appelle... Ma vie de couple, un truc comme ça, genre c'est assez récent, et on parle de ça, mon mec et moi. On entend souvent dire que tout le monde savait concernant les comportements problématiques des youtubeurs notamment. Est-ce que tu confirmes? Non, je ne confirme pas Sandy, puisque moi je suis ce qu'on appelle, je trouve un peu un électron libre. C'est pas pour me flatter ou me lancer des fleurs, mais j'ai l'impression que je réponds pas à une certaine norme en fait dans le milieu de l'influence, de YouTube, création de contenu. Je fais plus de divertissement avec, je fais plus de fit and fun. Je suis vachement plus dans des trucs introspectifs où j'essaye de partager des pensées avec vous. Donc je ne peux pas te dire que tout le monde savait, puisqu'en fait, je ne connaissais pas ces gens. En fait, c'est aussi simple que ça. Ce que je peux te dire, c'est qu'il y a des fils d'up partout. Il y a des cons partout et des gens qui abusent de leur petit pouvoir de merde partout. Donc, ceux qui disent « tout le monde savait », c'est qu'en fait, à mon avis, eux savaient. Ou alors, ils soupçonnaient. Voilà. Coucou Juliette, première fois sur Twitch pour moi. Eh bien, bienvenue. Je me demandais s'il t'était déjà arrivé de regretter par moment d'être devenue maman. Très souvent. Et c'est une différence pour moi fondamentale, être devenue maman et avoir un enfant. Alors, c'est très compliqué à comprendre tant qu'on ne le vit pas, mais je n'ai jamais regretté avoir d'enfant et avoir cet enfant-là. En revanche, je regrette parfois d'être... C'est pas que je regrette, en fait, c'est qu'il y a des moments où ça me pèse. Il y a des moments où ça me pèse parce que je ne suis plus mon centre. En fait, mon centre d'attention, donc le narcissisme, toi-même tu sais, et qu'en fait mon enfant passe évidemment avant tout, et qu'il y a des moments où ça me fatigue. Il y a des moments où j'ai pas envie, des moments où ça me saoule, où j'ai pas envie, il y a des moments où bah, du coup mon emploi du temps a changé. Je le dis sans trop de honte, parfois ça me fatigue d'être maman. Pas d'avoir un enfant, mais d'être dans cette posture de maman. Parfois, ça me fatigue, parce que je me mets au second plan, parce que notre couple se met au second plan. Et en fait, quand mon fils va mal, quand mon fils est malade, quand mon fils est dans des étapes compliquées de frustration, de tout ça, émotionnellement, c'est très dur pour moi. C'est vraiment très dur, parce que déjà, ça vient toucher à la patience, à tout ça. Et c'est très dur parce que je le vois pas bien. Genre, quand il est malade, c'est l'enfer pour moi. Je suis surangoissée. Et je me souviens, la première fois où il a été vraiment malade, j'ai regardé mon mec et je lui ai dit, tu vois, là, je regrette d'être maman. Il m'a dit, attends, mais pourquoi? Je lui ai dit, parce qu'en fait, j'ai peur qu'il meure à chaque instant. Et qu'en fait, je comprends ce que c'est d'être angoissée. Je croyais être une meuf anxieuse. Je le découvre maintenant, depuis que je suis daronne. Donc, pour ça, c'est genre à des moments, je suis genre... Bon, maintenant, il va avoir 3 ans, donc en fait, on est passé par les premières maladies difficiles. Et encore, il n'a que 3 ans. On en reparle quand il en aura 20 ans, les gars. En vrai, être parent, c'est difficile. Être parent, c'est un métier qui est difficile et qui est en même temps le métier le plus merveilleux du monde. Donc, il y a des gens qui me demandent beaucoup, est-ce que tu voudrais avoir un deuxième enfant? La réponse est non, déjà parce que j'ai jamais voulu avoir 2 enfants. Je n'ai pas voulu avoir ce truc-là, enfin avoir être une grande famille quand je dis ce truc-là. Mon mec voulait avoir 2-3 enfants et en fait non, parce que l'équilibre, il est trop bien comme ça. On aime bien cet équilibre comme ça. Non, mais on ne fera pas d'autres enfants aussi, parce que moi, j'ai vécu un accouchement sport et un postpartum compliqué, et j'ai plus envie. j'ai plus envie de ça. Et puis je trouve que ce qu'on vit là, c'est merveilleux, quoi. Attends, il y a une personne qui me pose plusieurs questions en même temps. Qu'est-ce qui est le plus chiant dans ton job? Et est-ce que tu regardes constamment tes stats, mes statistiques? Qu'est-ce qui est le plus chiant dans mon job? Je crois que ce qui est le plus chiant dans mon job, c'est quand on m'impose de faire quelque chose. Mais en même temps, c'est moi qui me l'impose. Hein. Donc, le plus chiant, je crois que c'est les marques qui sont reloues, qui nous imposent des trucs chiants. Ça, c'est vraiment des guidelines, des briefs relous. Ça, ça me fait chier. Donc, très souvent, quand on m'impose un truc, très vite, j'ai envie de dire, sans moi, les gars, j'ai besoin qu'on me laisse champ libre de ouf. Est-ce que je regarde mes stats constamment? Évidemment. Évidemment que je regarde mes stats constamment, parce que je crois que ce serait la même chose pour vous. Je veux dire, moi, mon métier, c'est de vous donner quelque chose, ok? Quel que soit ce quelque chose. Mais de vous proposer du contenu. Mon métier, c'est que ce soit regardé. Et donc, j'ai besoin de savoir combien de personnes, à peu près, regardent. Combien de personnes cliquent sur des liens. Combien de personnes regardent une vidéo. Pourquoi tel truc n'a pas marché. Donc, en fait, j'essaie de mettre un petit peu d'ego de côté. C'est pas contre moi, c'est pas pour moi, mais plutôt, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Mais oui, accro, je sais pas si je suis accro au stats, mais en tout cas, je les regarde. Je regarde constamment quand je fais des stories, instinctivement. J'ai fait une story il y a 3 heures, ok? J'ai fait une story, d'accord, il y a 3 heures. Là, il y a eu 50 000 personnes qui l'ont vue en 3 heures. Et voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. C'est beaucoup. En vrai, c'est beaucoup en 3 heures. Donc, vous imaginez en 24 heures combien de personnes ça fait. Et il y a des jours, donc là, j'imagine qu'en 24 heures, il va y avoir à peu près 180 personnes qui vont regarder. Donc à la fois, c'est beaucoup, 180 000 personnes. Oui, parce que c'est 180 000, hein. C'est pas 180 personnes. Donc à la fois, c'est beaucoup. Et d'un autre côté, je me dis, ah, mais c'est pas beaucoup comparé au nombre de personnes qui me suivent sur Instagram. Mais c'est vrai, en effet, qu'on s'habitue aux chiffres, tout à fait. Moi, mes vidéos qui fonctionnent et qui... Enfin, mes vidéos qui fonctionnent, je trouve ça trop cool. Mais c'est, je suis souvent dans un... J'ai souvent un regard négatif, où je me dis, tiens, pourquoi ça n'a pas marché, ça? Pourquoi? Et souvent, je ramène ça à me dire que je suis un peu une merde. Très souvent, parce que syndrome de l'infériorité et aussi de l'algorithme, évidemment. Je voudrais avoir ton avis sur quelque chose, me demande-t-on. On choisit nos amis et nos amours et non sa famille. Alors, pourquoi ce ne serait pas OK de couper le lien? Ben pour moi, c'est complètement OK de couper le lien. C'est pas OK pour la société. Et au nom de la famille, il faut pas le faire parce que c'est la mif. Mais en fait, c'est complètement OK de couper, quoi. Je crois qu'il faut vraiment pas du tout se forcer à être en lien avec des gens tout court. Voilà. Je vais répondre vite à plein de questions comme ça, ok? Ton épisode podcast préféré, je pense que c'est celui sur le deuil Diogène. Et il m'a vachement plu. J'ai aimé cet épisode. L'épisode sur le BDSM m'a beaucoup plu aussi. Ton avis sur les mamans parfaites, je m'en balèque total. Elles font bien ce qu'elles veulent. Et si ça leur fait du bien de montrer qu'elles sont parfaites, eh bien c'est super. Je me demande du coup ce qu'elles racontent derrière tout ça. Voilà. Est-ce que quand tu proposes des FAQ, tu stresses un peu des questions qui pourraient être juste méchantes ou connes? Non, pas du tout, puisque ça fait 8 ans que je fais ça et que je sais qu'il y a souvent des gens un petit peu concons, pas sympas. Et voilà, c'est la life, quoi. Est-ce que tu as déjà pensé à un diagnostic de TDAH pour toi? J'y ai pensé, mais je sais pas si je vais le faire, mais vous êtes très nombreuses, mais genre vraiment très nombreuses à me dire que vous pensez que je suis TDAH. Ou que je suis quoi d'autre, comment on dit déjà, HPI, je sais pas quoi vous dire, parce que voilà, zèbre, HPI, tout ça, il y a des gens qui pensent que je suis ça de ce que je montre un peu sur les réseaux sociaux. C'est pas improbable, c'est pas impossible plutôt. J'ai pas été plus loin, je sais pas si ça changerait quelque chose. Je pense que oui, mais ça va toi, sans tabou? Écoute, franchement, ça va plutôt pas mal, merci Claire de poser la question. Je suis pas trop mal en ce moment. Sur une échelle de 1 à 10, en vrai, je pourrais être vraiment pas bien, parce que je me suis découvert un mini diabète, donc pas ouf. Il se passait des choses amicalement qui sont pas très agréables à vivre, donc je pourrais être dans du bad de ouf. Et en fait, je suis assez dans un truc up, parce que j'essaie d'en faire quelque chose de positif, de me dire que ok, bah c'est un moyen de me mettre face à moi-même sur plein de choses et de me responsabiliser, de me mettre des choses en, tu vois, face à moi. Et donc à la fois, ça me fait du bien. Donc je dirais qu'en fait, bizarrement, je suis sur un petit 7-8 sur 10. Voilà. Est-ce que tu es nostalgique des périodes de ta vie? Je peux avoir de la nostalgie, en effet. Je peux ressentir de la nostalgie sur des trucs, sur des amitiés, parfois, c'est vrai, mais c'est pas pour autant que j'ai envie de les revivre. Est-ce que tu as déjà fait une dépression? Je ne pense pas. J'ai déjà été dans des états dépressifs, et d'ailleurs, je frôle souvent ces états dépressifs. Est-ce que, on va terminer cet épisode? Je pense que j'ai répondu à pas mal de questions. Je vais peut-être pas tout mettre dans l'épisode parce que c'était quand même assez long. J'espère que cet épisode vous aura plu. Ça fait longtemps que je vous ai pas remercié. Alors, je vais prendre 2 secondes pour le faire. Mais c'est vrai que, bah voilà, moi, je suis très heureuse de faire ce que je fais sur le podcast et comment vous recevez les choses et comment vous me rendez tout ça, voilà, je vois que ça vous plaît et ça me fait du bien. Donc merci pour ça, merci à vous pour votre soutien, pour votre écoute, et c'est grâce à vous que ce podcast continue d'exister, parce que évidemment on vous le dit tout le temps, mais sans vous tout ça ne fonctionne pas. Et puis quand je vois en fait que le podcast fonctionne même sans que j'en parle, je suis très heureuse des scores qu'on fait. Et tout ça me donne des envies d'ailleurs avec le podcast. Voilà. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Même studio, même micro. Salut. Je vous embrasse. Podcast.